Vous écoutez RTL.
7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Bien, avant de parler de la rentrée, ce mea culpa de François Hollande, je n'aurais pas dû abolir la hausse de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy. La rivalité rend aveugle en politique ?
Je crois surtout, enfin, je n'ai pas lu le livre que vous évoquez, mais je crois qu'il faut se souvenir quel était l'état des finances publiques lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2012, qui était largement grevé en réalité, et bien plus que ce qu'on avait imaginé pendant la campagne présidentielle même. Et si je comprends bien ce que François Hollande a dû vouloir dire, c'est que d'une certaine façon, la situation était tellement terrible que pour opérer le redressement des comptes publics qu'on s'était engagé à redresser, la facilité aurait pu être en effet de laisser cette TVA qui avait été décidée par son prédécesseur se faire.
Politiques. La droite s'engouffre dans la brèche en disant, voyez, regardez.
Mais au-delà des conséquences politiques, précisément parce que François Hollande, pendant sa campagne présidentielle, s'était engagé à revenir sur cette augmentation de TVA, il a préféré tenir son engagement et procéder, comme nous l'avons fait, à des augmentations de fiscalité ciblées. D'ailleurs, tous les Français n'en ont pas pâti de la même façon, l'augmentation de l'impôt sur les grandes fortunes, etc. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au but que nous nous étions fixés, c'est-à-dire que nous avons redressé les comptes publics et nous avons réussi à retrouver des marges de manœuvre pour soutenir la compétitivité des entreprises et pour redresser l'économie aussi. C'est ce qui nous permet d'ailleurs, j'en terminerai par là, en cette rentrée, de réduire les impôts de 9 millions de Français, en moyenne de 300 euros quand même. C'est un effort important qu'il faut souligner.
Autre phrase de François Hollande dans ce livre, j'ai engagé des réformes qui ne sont pas toutes de gauche, mais qui servent l'intérêt général. Ça ne veut pas arranger ses affaires avec une bonne partie de la gauche. Hein, c'est un peu du Tony Blair, quoi. Tony Blair qui était venu dire, se faire acclamer à l'Assemblée nationale par la droite quand il avait dit ce qui compte, c'est ce qui marche.
Non, en fait, il faut savoir attendre la fin de l'histoire pour pouvoir la juger. C'est-à-dire que, enfin, là encore, vous m'obligez à faire l'exégèse des propos de François Hollande, mais si j'en crois ce que je comprends...
Ça intéresse tout le monde.
Il faut attendre la fin de l'histoire pour la juger. C'est-à-dire que, par exemple, quand on adopte, en effet, le crédit d'impôt compétitivité emploi ou alors le pacte de responsabilité qui va faire bénéficier les entreprises de 40 milliards d'euros... On pourrait croire que ça n'est pas une mesure de gauche, sauf que l'objectif de ces mesures-là, c'est précisément de pouvoir ensuite redistribuer l'argent qui aura été créé par ces nouvelles marges de manœuvre et cette nouvelle activité produite par les entreprises grâce à cela, à des ménages. Et donc, cette redistribution, c'est ça qu'il faut regarder à la fin de l'histoire, c'est si les ménages en ont bien profité, notre société en a bien profité. Et moi, quand je vois les efforts que nous faisons, je parlais de la réduction de la fiscalité pour un certain nombre de ménages, je pourrais parler des efforts pour l'éducation, par exemple, qui
alors,
est le premier budget de la nation. Je me dis qu'il y a bien la redistribution et l'investissement
d'accord.
qu'il fallait.
Alors, rentrée réussie, je le disais tout à l'heure, parce que j'ai eu beau chercher partout, j'ai pas vu d'incident. Ça, il y a un petit miracle là, donc bravo. Mais il y a des gens qui cherchent à vous gâcher la fête. Un exemple. Il y a un rapport qui est publié qui indique que les ministères, notamment le ministère de la Justice, font travailler près de 50 000 personnes au noir. Alors, vous avez décidé, vous, d'instaurer l'enseignement moral et civique. Les professeurs, d'ailleurs, renaclaient un peu, ils ne voulaient pas faire ça dès cette année. Mais qu'est-ce qu'un professeur va pouvoir répondre à un élève qui, durant cet enseignement, va lui dire « Monsieur, quand même, c'est bien gentil votre histoire, là, mais si l'État et le ministère de la Justice fraudent, hein, pourquoi moi j'aurais à respecter la loi ?»
Alors, je ne connais pas les détails, oui. Honnêtement, de ce que vous évoquez au ministère de la Justice. Donc,
non, mais sur le principe, sur la valeur.
Je ne rentrerai pas dans ce sujet. En revanche, vous avez très bien illustré à quoi ressembleront les enseignements moraux et civiques à partir de cette année. C'est-à-dire que, en effet, ce sont des dilemmes moraux qui seront posés aux élèves pour que s'engage un débat et que les élèves comprennent à la fois la règle, le droit, mais aussi l'idée que parfois on puisse avoir des opinions contradictoires.
Est aussi délétère. Qu'est-ce qu'un professeur peut dire, peut répondre ?
Souvent, d'ailleurs, sans parler forcément de politique, on en a d'autres exemples avec des parachutes dorés, etc. en ce moment. Souvent, en effet, les exemples qui viennent de plus haut font dire aux élèves qu'il y a deux poids, deux mesures. On peut prendre d'ailleurs un autre sujet. Rappelez-vous, après les attentats de Charlie en janvier dernier, souvent on entendait dans les classes « Mais pourquoi est-ce que Dieu donnait, on lui refusait la liberté d'expression ?» Et puis
alors,
Charlie,
justement.
etc. Donc, c'est ce deux poids, deux mesures qu'il s'agit dans ces enseignements nouveaux d'aborder pour clarifier les choses auprès des élèves sur ce qui est permis, sur ce qui est interdit par la loi, sur, au fond, alors, les règles qui nous permettent de vivre ensemble.
Puisque vous évoquez Charlie Hebdo, il y a la charte de la laïcité. Même la droite reconnaît qu'elle est très bonne, donc pas de problème là-dessus. Mais moi, quand je suis allé dans des collèges et des lycées, je me suis rendu compte qu'en fait, les élèves ne sont pas hostiles à la Shoah, seulement ils ne la connaissent pas, parce qu'ils ont d'autres origines, ça ne fait pas partie de leur patrimoine culturel. Alors, comment faire pour que tous ces jeunes Français, qui sont d'origines diverses, variées, arrivent à rassembler leurs histoires, qui sont différentes, pour en faire une histoire commune, celle de notre pays ?
C'est une mission fondamentale de l'école, d'abord. Parce que je le dis avec solennité, parce que certains en doutent, certains croient que l'école n'est là que pour transmettre des savoirs. Non, l'école est là aussi pour apprendre à vivre ensemble, en effet, bien qu'on ait chacun des origines, des parcours différents, des familles différentes. Pour apprendre à vivre ensemble, l'école doit aussi apprendre la citoyenneté. Et d'une certaine façon, cet enseignement moral et civique aura cette vocation-là, tout comme le fait qu'à partir de cette rentrée, il a été demandé aux établissements scolaires d'inscrire dans leur projet d'établissement des dates de commémoration patriotique que élèves devront
célébrer. C'est pas seulement l'enseignement, il faut que ça entre, que ça soit intégré,
absolument,
intériorisé.
Absolument. Et pour l'intérioriser, eh bien, il faut d'abord le comprendre. Cela passe par des cours d'histoire. C'est l'occasion de rendre hommage aux professeurs d'histoire qui jouent un rôle essentiel en la matière. Bien connaître son histoire, avec une histoire qui soit appropriée véritablement par les élèves, donc qui soit bien présentée. Mmh. C'est l'objet de la révision des programmes pour avoir des programmes d'histoire plus chronologiques, pour que les élèves aient des repères plus simples. Donc, bien connaître son histoire, avoir des moments de célébration de la mémoire. C'est l'objet de ces cérémonie patriotique que j'évoquais tout à l'heure, le 11 novembre, etc. D'accord. Et puis, cet enseignement moral et civique qui a aussi vocation à développer le sens de l'engagement chez les élèves, notamment en faisant intervenir dans les classes des réservistes citoyens. Vous savez, ces adultes, ces 5000 personnes qui ont dit qu'elles étaient d'accord pour venir épauler l'école, pour parler de leurs engagements et donner envie de s'engager aux élèves.
Question brève, réponse brève, s'il vous plaît. Les syndicats enseignants veulent se mettre en grève le 17 septembre contre la réforme du collège et pourtant vous dites qu'elle a été négociée avec eux. Ils sont bornés, ils ne comprennent rien ?
Oh non, je ne me permettrai pas,
voyons. Non, mais je vous pose la question.
Non, les syndicats sont dans leur rôle. Écoutez, Olivier Mazerolle, je crois que vous observez la vie politique depuis suffisamment longtemps et l'éducation nationale aussi pour savoir que à chaque fois qu'on conduit une réforme dans l'éducation nationale, vous avez des opposants et puis vous avez des soutiens aussi. D'ailleurs, on ne le dit pas assez souvent, mais il y a des organisations syndicales qui soutiennent très fortement cette réforme du collège. Donc celles qui sont opposées vont à nouveau mobiliser, en effet, à la mi-septembre. Moi, je l'ai toujours dit, ma porte reste ouverte pour que nous continuions à préparer dans les meilleures conditions la rentrée 2016, tout comme cette rentrée 2015 s'est bien préparée, s'est bien passée, et elle sera d'autant mieux préparée la rentrée 2016 que les enseignants seront formés, un effort de formation continue inédit et conduit cette année, formés aux nouvelles pratiques pédagogiques, aux nouveaux programmes et au plan numérique, c'est ça les trois nouveautés de la rentrée 2016.
Je vous remercie, mais on a dépassé l'heure.
Désolé.
Imparti pour l'examen.
Et en plus, je vais avoir le toupet de reposer une question. Vous savez que RTL consacre une journée spécifique à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des migrants. Je voudrais savoir si, pour la ministre de l'Éducation nationale, les enfants des migrants ont vocation à être scolarisés dans notre pays.
Oui, d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer ce que fait l'éducation nationale en matière de scolarisation des enfants de migrants, avec des accueils qui passent. Je ne sais pas si vous avez vu ce très beau film qui s'appelle La Cour de Babel, sinon je vous invite à le voir, qui passe par des classes spécifiques, passerelles, et qui permettent à ces enfants de s'intégrer le mieux possible. C'est une situation délicate que nous vivons, et je crois qu'il faut faire preuve à la fois d'humanité, de responsabilité, comme cela a été dit par le Premier ministre.
Merci Najat Vallaud-Belkacem, merci. Olivier Mazerolle, l'entretien bien entendu à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.